Alors, on a dit souvent, on a dit beaucoup, que le 11 septembre avait changé les choses, hein, en septembre 2001, qu'il y avait eu beaucoup de... On était passé d'un monde à un autre. Je suis de ceux qui le croient. Je suis de ceux qui le croient, avec deux réserves importantes. C'est que, disons, il y a deux paramètres qui n'ont pas changé, malgré tout, avant et après septembre, le 11 septembre, et qui sont des paramètres centraux pour comprendre, disons, la cartographie du monde, qui est un des projets que j'ai essayé de faire dans le livre, mettre au clair, essayons de brosser, en quelque sorte, une cartographie des problèmes du monde, ce que j'appelle le nouveau visage du monde. Quel est le nouveau visage du monde? Comment il se présenterait? Bien, ce nouveau visage, les traits principaux de ce nouveau visage du monde sont, d'une part, que le monde d'aujourd'hui, l'architecture, disons, du pouvoir, l'architecture géopolitique du monde, bien, elle est coiffée par ce qu'on appelle maintenant une hyperpuissance, c'est-à-dire une puissance unique, solitaire, supérieure aux autres, ce qu'on appelle une puissance globale, et qui domine l'ensemble du monde. C'est les États-Unis. C'était vrai avant le 11 septembre, et ça le demeure après le 11 septembre. De ce point de vue-là, il n'y a pas eu de changement structurel. L'autre caractéristique, l'autre trait de ce portrait, de ce visage du monde, ce nouveau visage du monde, c'est que la dynamique centrale dans laquelle nous sommes tous engagés, qu'on le veuille ou non, à la limite à notre corps défendant, la caractéristique principale de la planète, c'est la globalisation libérale. Hein, c'est cette mondialisation qui, finalement, peu à peu, s'est imposée comme étant, disons, la force principale de ce qui se produit aujourd'hui dans le monde. Et ça, il faut en être tout à fait conscient. Il ne se passe rien de plus important que la mondialisation libérale. Hein. Et c'est la mondialisation libérale, dans une certaine mesure, qui, depuis à peu près une vingtaine d'années, mais elle a été accélérée, n'a plus trouvé de frein, ni de limite, ni de barrière, ni d'éléments de canalisation depuis la chute du mur de Berlin et depuis la disparition de l'Union soviétique. Ce qui fait qu'elle s'est accélérée au cours de ces 10 dernières années. La globalisation, la mondialisation libérale, elle existait avant le 11 septembre, elle existe toujours aujourd'hui et d'une façon, je dirais, aussi brutale. Et alors, pourquoi est-ce qu'on peut dire cependant que le 11 septembre a changé les choses? Parce que, si du point de vue, je dirais, de ces deux réalités majeures, ça n'a pas changé, du point de vue du fonctionnement, oui, les choses ont changé. Hein, c'est évident. Disons que le 9 novembre, le 9-11, par rapport au 11-9, n'est-ce pas, on fait un jeu de symétrie, le 9 novembre, la chute du mur de Berlin, nous avait déjà fait rentrer dans une ère nouvelle. Vous avez fait sortir, disons, de la guerre froide, de cet univers qui était caractérisé par l'équilibre de la terreur, le fait que, à une superpuissance, faisait contrepoids une autre superpuissance, l'Union soviétique et les États-Unis, avec l'effondrement de l'Union soviétique, effondrement, j'en profite pour le dire, mystérieux, énigmatique. Nous ne savons pas pourquoi l'Union soviétique a disparu. Hein. Chacun d'entre nous peut avoir 3 ou 4 théories, mais en fait, il n'y en a aucune qui s'impose. C'est la première fois dans l'histoire, qu'un empire, au sommet de sa puissance, s'effondre de lui-même. Hein, ça ne s'est jamais vu. Et donc, par conséquent, cette ère qui commence par une sorte d'énigme historique, elle a dessiné très vite un monde et qui était très curieux parce que d'un côté il y avait une hyperpuissance, mais une hyperpuissance qui s'étant retrouvée presque par hasard, ou disons d'une manière inattendue ou inespérée, dans une situation de victoire, s'est très vite dotée d'une mission universelle, disons, hein, et telle que l'avait défini le père de l'actuel président des États-Unis, quand il avait dit « nous allons instaurer maintenant un nouvel ordre international, un nouvel ordre mondial », et qu'on avait dit il va falloir maintenant eh bien, faire bénéficier l'humanité des dividendes de la paix. On avait beaucoup dépensé en armes, on avait beaucoup dépensé pour s'équiper, pour ne pas être détruit par l'adversaire. On va maintenant faire profiter l'humanité de ceci. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais globalement, cette période qui avait commencé à l'époque était une période, on pourrait dire, où l'idée c'était que la mission des grandes puissances aujourd'hui, c'était d'étendre la démocratie, c'est-à-dire faire en sorte que, que les seuls pays fréquentables étaient les pays démocratiques, qu'il fallait que partout la démocratie se développe. Également l'ère de la défense des droits humains, hein, les droits de l'homme, c'est devenu une revendication permanente et générale, généralisée, et aussi l'idée que dans chaque État, qui est un peu ce qui va avec, finalement, ce qui accompagne la démocratie, eh bien, il y avait un État de droit, hein, donc les citoyens disposaient d'un certain nombre de droits. Donc cette perspective transformait les États-Unis, et même, disons, un certain nombre de puissances, en défenseurs, disons, d'idées généreuses. Alors, on peut évidemment être plus ou moins réservé sur ce projet explicite, d'autant qu'il accompagnait malgré tout le déchaînement de la globalisation, mais les guerres de cette période se sont faites au nom de ces idées. Hein, en Somalie, l'intervention en Somalie, la guerre de Bosnie, la guerre du Kosovo, tout ça s'est fait au nom de cet idéal. Et l'impression qu'on pouvait avoir, c'est que les États-Unis s'étaient trouvés comme une sorte de colosse qui s'était suréquipé, surentraîné, etc., pour pouvoir rencontrer sur un ring un adversaire de sa taille, un poids lourd comme lui, et puis ce poids lourd avait disparu, et il se trouvait un peu mal à l'aise, parce que trop musclé, trop fort, etc., un peu, et tout seul, dans une position un peu quasiment ridicule.